Bonjour, bonjour, Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes sur un ton décidé. Pour vous apprendre ou vous rappeler que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent sur les grands écrans, les petits, là où vous voulez. En fait, je suis tolérant ce jour, eh bien nous allons consacrer notre émission à celui qui se nomme modestement ou que l'on nomme modestement comme l'un des plus grands compositeurs de musique de film au monde. J'aurais un peu de mal à agréer à cette chose, aussi surprenant que cela paraisse, mais il est vrai que le nom de Hans Zimmer, puisque c'est à lui que nous allons consacrer cette émission de 24 notes secondes, est désormais associé aux plus grandes super productions de Pirates des Caraïbes en Dark Knight, j'en passe, et quelques meilleurs, va-t-on dire. Eh bien, l'homme a su imposer une marque de fabrique, parfois un peu pompeuse, mais qui relève quand même d'une grande efficacité. Le plus étonnant est que celui qui est donc l'un des plus grands compositeurs de musique américain est né, comme son nom l'indique, est né quelque part à Francfort en Allemagne le 12 septembre 1957, même si bien évidemment il vit désormais à Los Angeles, la cité des anges. Ma petite fiche rapporte qu'à l'âge de 3 ans, Hans Zimmer étudie le piano pendant une semaine et jamais le solfège, ce qui peut-être explique un peu la nature de sa musique. Bref, l'homme est autodidacte et n'a pas suivi, comme nombre de compositeurs de musique de film, notamment Ennio Morricone, aussi un des plus célèbres compositeurs de musique au fond, n'a pas suivi d'études musicales très approfondies. Dès les années 70, eh bien, il commence à écrire des jingles et participe à un groupe intitulé The Buggles, dont vous vous souviendrez peut-être, non, tant pis pour vous, qu'il avait au moins commis un hit vidéo Kill the Radio Star. Et oui, on y voyait Hans Zimmer derrière le piano, enfin derrière un clavier qui ressemblait vaguement à un piano. Et donc une première tentative de succès avant que l'homme ne fricote avec quelques compositeurs de musique de film, pour le coup anglais, comme Stanley Meyer, Nick Glennie-Smith ou Richard Harvey, et commette sa première composition en 1982 pour un film de Jerzy Skolimowski, ou plutôt il collabore à la musique de Travail au Noir, c'est le nom de ce film, un excellent film de Jerzy Skolimowski, une musique signée de Stanley Meyer. Ensuite, eh bien, il enchaîne d'autres compositions, presque toutes plus invraisemblables les unes que les autres, puisqu'on le voit dans Histoire d'eau chapitre 2, enfin on ne le voit pas, c'est lui qui est aussi compositeur avec Stanley Meyer. On le voit aussi, là c'est un peu plus intéressant, dans le My Beautiful Landrette succulent de Stephen Frears, dans d'autres films moins connus, jusqu'à ce que quelque part en 1988, eh bien, le succès ne vienne frapper à sa porte en la présence de Barry Levinson, venu lui proposer la musique de Rain Man. Nous allons y revenir, mais on va quand même passer à la musique et passer aussi quelques années pour entaquer direct live avec l'un des plus grands succès du susdit Hans Zimmer. Allez, je vous en reparle après, je suis sûr que vous allez le reconnaître. You Naughty Boys dans 24 notes secondes.
I
Efficace, on ne peut pas dire. Eh bien, c'était Lisa Gérard et Hans Zimmer, quelque part mêlés pour la bande originale de Gladiator. Sans doute les grands fans l'ont reconnu. Un film de Ridley Scott tourné en 2000 avec Russell Crowe dans le rôle viril et principal. Et certainement l'un des sommets du péplum revival des années 2000, qui d'ailleurs dure encore. Et un très très grand succès cette année-là, à tel point que maintenant on présente Ridley Scott comme le réalisateur de Gladiator, alors que l'homme a signé aussi quelques films insignifiants comme Alien ou Blade Runner, le pauvre. Ma foi, Gladiator n'était pas si mal venu, où on avait aussi connu un revival de l'œuvre de Sénèque. C'était pas plus mal non plus qu'on voyait au tout début du film. Bref, c'était un peu violent. Il y avait des tigres numériques et aussi beaucoup de gens numériques dans l'amphithéâtre du Colisée. Mais ma foi, c'était plutôt efficace. Et c'était une occasion pour Hans Zimmer, non pas de s'introduire dans le milieu des blockbusters, ça faisait déjà un petit moment qu'il y était, mais de confirmer une mainmise, une prépondérance initiée dès son arrivée aux États-Unis. Alors nous avons évoqué Rain Man, qui lui a permis d'obtenir une nomination aux Oscars. Rain Man avec évidemment Tom Cruise et Dustin Hoffman qui faisaient personne ne l'a oublié forcément. Et l'occasion évidemment pour Hans Zimmer, puisque à Hollywood ça marche comme ça, si un film a du succès, eh bien tous ceux qui ont collaboré au film ont du succès, même si leur composition respective n'est pas forcément prépondérante. Eh bien ce fut le cas de Hans Zimmer, qui donc dès 1989 eh bien commença à une collaboration avec nombre de cinéastes, notamment Ridley Scott, dont il signa en 89, la musique de Black Rain avec Michael Douglas, si je me souviens bien, et ensuite enchaîna à la fois des films un peu d'auteur, il faut le reconnaître, comme le Green Card de Peter Weir avec Gérard Depardieu, et Jour de tonnerre de Tony Scott dans un genre très différent avec un nouveau Tom Cruise dans le rôle d'un pilote de voiture. Je ne sais pas exactement de quel genre de voiture il s'agissait. Bref. Énormément de compositions. Il faut dire qu'à son arrivée à Hollywood, eh bien, Hans Zimmer avait créé une sorte de studio intitulé Media Venture, auquel il avait permis de s'équiper des techniques électroniques les plus modernes en s'entourant d'une équipe de jeunes compositeurs comme Mark Mancina, Nick Glennie-Smith, Jeff Rona ou Shirley Walker, une des rares femmes compositrices de musique de film, c'est bien rare dans ce milieu, qui composaient tous ensemble à tel point que, à plusieurs reprises, eh bien, Hans Zimmer se vit méchamment accusé d'avoir utilisé les musiques des autres sous son propre nom. Ce à quoi il dit, logique, bien d'automne, moi Dragonu, eux moins, donc mieux dire musique de moi. Bref, ça ne l'empêcha pas, en 1995, d'obtenir son premier et jusqu'alors seul Oscar. Je vérifie l'année car j'ai quelques doutes sur l'année de ce chef-d'œuvre. C'est 1994 pour Le Roi Lion, dont nous allons maintenant écouter. Mais non, je plaisante, que nous n'allons pas écouter un extrait du Roi Lion. On va écouter un extrait de Pirates des Caraïbes au bout du monde. Sauf erreur de ma part, le troisième opus d'une d'abord trilogie, mais qui maintenant se poursuit, puisque c'est la seule occasion pour Johnny Depp d'avoir quelques succès commerciaux. Bien entendu, je plaisante à peine. Allez, un petit extrait de Pirates des Caraïbes 3. Hans Zimmer dans 24 notes secondes.
Thank you.
Je vous parie que ce dernier petit morceau signait l'apparition de Johnny Depp à un extrait de la bande originale de Pirates des Caraïbes, Au bout du monde, At World's End, un film de Gore Verbinski qui était aussi l'auteur des deux précédents opus que je ne vous rappellerai pas puisque ce jour, eh bien c'est Hans Zimmer auquel nous consacrons cette émission de 24 notes secondes. Hans Zimmer, donc l'un des compositeurs les plus connus au monde, c'est vrai, en matière de musique de film puisqu'il a associé son nom à quelques blockbusters. En fouillant dans sa filmographie, si je puis dire, eh bien, on retrouve nombre de films qui ont coûté beaucoup d'argent, qui en ont remporté pas mal, pas toujours. Et puis, il faut le reconnaître, on trouve aussi quelques perles, comme par exemple, nous avons évoqué Ridley Scott tout à l'heure, eh bien, Hans Zimmer était aussi de Thelma et Louise, un petit brûlot féministe, un chef-d'œuvre absolu. On lui doit aussi, alors qu'il y a quand même quelques partitions qui trouvent grâce à mes yeux si difficiles, la composition d'un film qui, lui, pour le coup, était vraiment dans la catégorie blockbuster, le USS Alabama, Crimson Tide in English, de Tony Scott, le regretté Tony Scott, là encore, qui était une très belle partition qui mêlait musique électronique, comme celle qu'on vient d'entendre, partition orchestrale et chœur. Quand il y a des chœurs dans une musique de film, eh bien, généralement, l'effet est magique, surtout quand ça se passe sous l'eau, puisque le USS Alabama, c'est un sous-marin, au cas où vous l'ignoreriez, ce qui serait tout à fait normal, cela dit. On peut aussi isoler, et là, c'est une collaboration vraiment improbable, la très très belle partition composée pour un film de Terrence Malick, très très ennuyeux, tourné en 1998, La Ligne Rouge, qui racontait la guerre du Pacifique avec des angoisses existentielles de la part des soldats qui passaient beaucoup de temps en voix off. Mais la musique, elle était pas mal. Bref, tout ça pour dire que Hans Zimmer alterne le meilleur et parfois le pire. Nous ne retenons que ce premier dans 24 notes secondes et forcément, on ne pouvait pas consacrer une émission à Hans Zimmer sans écouter un extrait de la bande originale de la seconde part d'une trilogie commencée quelques années plus tôt. Là encore, il faudrait que je regarde ma petite fiche, mais ce n'est pas grave. En tout cas, une trilogie qui composait dans son deuxième opus The Dark Knight, certainement l'épisode la plus fameuse, je vous donnerai les dates après, c'est pas grave. The Dark Knight de Christopher Nolan, qui était une résurrection brillante de Batman, avec donc une composition tout à fait efficace de Hans Zimmer, ce que les théoriciens appellent parfois le Wall of Music, qu'on retrouvait beaucoup dans les compositions hollywoodiennes des années 50, c'est-à-dire des films pendant lesquels il y a tout le temps ou presque de la musique. Alors parfois c'est un peu pesant, parfois c'est un peu réussi, et quand la mise en scène est aussi brillante que celle de The Dark Knight, eh bien ça peut devenir carrément transcendant. Allez, on en écoute un petit extrait sur Divergence FM. C'est du lourd, on ne peut pas dire. Ne mettez pas trop de basse sur votre haut-parleur, parce que sinon ça fera façon tremblement de terre. Un extrait de la bande originale The Dark Knight, un film de Christopher Nolan tourné en 2008. La vérité m'oblige à dire qu'en fait, la bande originale de The Dark Knight, comme du film qui l'a précédé dans la trilogie Batman Begins 2005, ont été composées en collaboration avec James Newton Howard, un compositeur qui ne sera pas, là encore, inconnu aux oreilles des auditeurs de 24 notes secondes, de la musique très efficace et qui fonctionne très très bien, il faut le reconnaître, avec le film, même si le troisième opus, The Dark Knight Rises, tourné en 2012, eh bien lui, il ne fonctionnait pas du tout. C'est peu de le dire. Voilà, alors on va encore évoquer quelques titres et on va s'écouter un dernier extrait de bande originale de Hans Zimmer. On pourra isoler en 2009, la magnifique, je dois le reconnaître, partition de Sherlock Holmes, de Guy Ritchie, à tel point que quand j'ai écouté le générique, je me suis dit, ça ne peut pas être de Hans Zimmer, j'ai honte, mais c'est ce que je me suis dit. Et en fait, si, une très très belle partition, complétée en 2011 par une partition tout aussi excellente pour Sherlock Holmes 2, on va appeler ça comme ça, ça s'appelait « Jeu d'ombre », toujours de Guy Ritchie. Évidemment, on va aussi isoler la partition d'Inception, le plus grand film du 21e siècle. Bon, il n'est pas encore fini, mais pour l'instant, c'est le plus grand film du 21e siècle. Et de toute façon, je n'en verrai pas la fin. Ce n'est pas le problème. On va aussi évoquer Interstellar, puisque donc Hans Zimmer, pardonnez-moi, a engagé une fructueuse collaboration avec Christopher Nolan qui se poursuivra en 2017, alors j'adore, avec un film intitulé Dunkirk, D-U-N-K-I-R-K, et qui va raconter, en fait, si j'ai bien compris, la même histoire que Weekend à Zuidcote de Henri Verneuil, avec Jean-Paul Belmondo, bien sûr, c'est-à-dire la honteuse évacuation des troupes françaises et anglaises quelque part à Dunkerque au début de la Seconde Guerre mondiale. En attendant, on a pu voir et entendre Batman contre Superman et on a pu aussi entendre que Hans Zimmer avait annoncé qu'il arrêtait les blockbusters, à moins que ce soit les blockbusters qui arrêtaient Hans Zimmer. On sait ce qu'il en est des promesses dans le monde du showbiz. Wait and see, comme ne dirait pas Hans Zimmer, puisqu'il est allemand, je vous rappelle. Allez, on va se quitter sur une dernière partition, bien sûr. Alors là encore, un blockbuster en veux-tu, en voilà. L'adaptation en 2006 par Ron Howard du Da Vinci Code, le Da Vinci Code, oui, c'est comme ça que ça s'appelle aussi en français, une très jolie partition avec, si je me souviens bien, des chœurs. Quand je vous dis quand il y a des chœurs, 24 notes secondes. Thank you. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you and bye bye.